Pourquoi tu me regardes comme ça ?
Des fois, cette émission me touche. Ah, j'aime bien le vivre à côté de toi, Mimi.
Et c'est sur l'autre radio ?
Il y a des jours, et je sais que ça vous arrive aussi, où j'ai envie de juste disparaître, couper le son du monde, se réfugier quelque part, loin, très loin, dans un désert, pourquoi pas, tiens, puisqu'on n'a pas de limite à l'imagination sur l'autre radio. Une caravane en aluminium, un iguane pour seul compagnon et une radio qui capte encore, parfois, des voix du passé, des âmes errantes sur les ondes. On allume, on écoute, et on ne sait pas trop si on est seul ou accompagné. Alors est-ce que l'auditeur de l'autre radio est encore avec moi ? Ne lâchez pas, vous allez voir. On continue dans ce désert, il y a des jours où on capte, sans trop savoir pourquoi, une voix, une histoire, un spectacle, un auteur qui raconte ce qui l'obsède, la fuite, le silence, la mémoire des absents, la beauté des grands espaces et le chaos du monde. C'est à ça qu'on tend l'oreille. Aujourd'hui, on suit la fréquence, on monte à bord d'Airstream. Alors, qu'est-ce que c'est, vous allez me dire? Eh bien, Guillaume Barriou est avec nous aujourd'hui justement pour nous en parler. Il est auteur, metteur en scène, créateur sonore. Entre fiction et réalité, entre ondes et scènes, il nous emmène dans un road movie immobile où les fantômes parlent à l'oreille des vivants. Ce sera à Ernée du 5 au 9 février. Différents rendez-vous et déclinaisons d'une fiction radiophonique sur scène vous sont proposés, ou même en lecture dans une salle de cinéma. Voilà. Bienvenue à bord de votre émission quotidienne Ami Auditeurice, et bienvenue à toi Maxime. Comment tu vas ?
Bonjour à tous, ça va super, et toi Margot ?
Eh bien, très bien aussi. On aura aujourd'hui également la petite annonce au bout du fil dans l'émission, et puis on terminera notre série de reportages sur la brasserie mayonnaise L'Arborescence aux côtés de Jean-François Guillery, qui aujourd'hui nous parle des étapes de fabrication de la bière. Puis alors l'émission se terminera bien aussi aujourd'hui, puisqu'on la terminera avec notre chroniqueuse Soizic qui nous rejoint pour un autre écho de l'écho. Voilà, je ne vous ai rien caché de ce qui vous attend dans cette émission, c'est même un très beau programme. Et comme j'ai commencé cette émission en vous parlant de désert, on y retourne tout de suite avec l'entretien du jour. L'agité du local sur l'autre radio. Alors je vous le disais, aujourd'hui nous avons le plaisir d'avoir avec nous Guillaume Barriou. Bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation.
Bonjour, avec plaisir.
Et donc aujourd'hui vous venez nous parler du spectacle Airstream qui sera donc joué dans le cadre de la saison culturelle de l'Ernée le 6 et le 7 février à 20h. Si on parle de l'univers de ce spectacle, Airstream c'était d'abord une fiction radiophonique. À quel moment est-ce que tu as décidé d'en faire toi une adaptation scénique ? Et est-ce que c'était une évidence dès le départ pour toi de prolonger ce projet-là ?
Alors la réponse pourrait être un petit peu compliquée et alambiquée, mais non, en fait la fiction radiophonique était déjà une partie d'un projet transmédia qui comprenait deux autres spectacles et puis un roman graphique qu'on souhaitait faire autour d'un même personnage qui s'appelle Saul. Donc c'était déjà une extension de narration par rapport à d'autres pièces. Et une fois qu'elle est sortie, qu'on l'a finalisée et puis qu'on en a fait un disque vinyle, parce que c'était l'objectif dès le début qu'il y ait un objet autour de cette fiction, qu'elle puisse être diffusée et sur des radios, mais qu'elle puisse être aussi écoutée sur une platine. On s'est dit avec l'équipe, en fait, il y avait donc Sophie qui interprète un des personnages et qui a co-écrit le texte d'Airstream avec moi. Il y avait Vincent Dupas qui est musicien et puis Benjamin Bachelier qui avait fait la couverture du disque. Et en fait, on s'est tellement bien entendu qu'on s'est dit, mais ça serait super d'en faire une version live en direct et sur un plateau. Voilà, donc c'était pas prévu au départ. Ça s'est fait un petit peu comme ça, suite à des bonnes relations d'équipe et d'une envie commune, quoi. Mais c'était pas prévu au départ, oui.
Justement, pour dire quelques mots peut-être à l'auditeur de l'autre radio qui nous écoute, quelques mots sur ce qui va être joué, sur l'histoire qui était racontée d'ores et déjà dans la fiction radiophonique. Est-ce qu'on peut dire quelques mots sur ce personnage qui est Saul, celui qu'on retrouve justement dans plusieurs même de vos créations ?
Ouais. Eh ben, c'est un personnage dont l'histoire varie un petit peu en fonction des pièces ou des fictions qui sont développées par la compagnie, mais globalement c'est un type qui est allé se perdre dans les canyons avec sa caravane, qui est une caravane Airstream, d'où le nom de la pièce, qui vit avec un iguane de compagnie qui s'appelle Nebraska et qui a une forte tendance à se perdre avec les fantômes de son passé, donc des gens qu'il a connus et qu'il a fréquentés et à communiquer avec eux via les ondes radio. Voilà, c'est quelqu'un qui écoute la radio toute la journée et qui finit par entendre ou percevoir les voix de ses anciens compagnons de route. Et on découvre au fur et à mesure qu'il est venu là principalement à cause de la disparition de sa femme, Lucie. Voilà. Et il se retrouve perdu et commence à perdre un peu la tête au milieu des canyons et à développer un imaginaire à la fois avec une conscience écologique puisqu'il il a fui le monde des humains pour se retrouver en pleine nature, mais aussi avec une petite folie douce que l'alcool n'arrange pas. En gros, si je dois résumer.
On peut pas s'empêcher de faire un peu un lien avec ton parcours puisque toi-même tu viens clairement du monde de la radio. Comment est-ce que tu as, quel sens, peut-être quelle nouvelle image aussi tu as eu envie de donner de ce qu'est la radio à travers cette histoire et ce personnage?
Si tu veux, moi la radio effectivement moi je viens du monde de la radio associative. C'était mon premier boulot et puis j'en suis resté marqué, y compris depuis que j'ai monté ma compagnie. D'abord, la radio, pour moi, c'est des modalités de récit qui sont vraiment ultra importantes et que j'ai utilisées sous différents biais à l'intérieur des créations de la compagnie. Donc, une façon de laisser aussi beaucoup de place à l'auditeur-spectateur et que je continue de chérir au milieu des créas parce que je trouve que c'est vraiment une modalité particulière, un mode d'écriture qui est vraiment important. Et puis une fascination pour tout ce qu'a lien avec les ondes. Là, en l'occurrence, c'est vrai qu'on peut penser aux ondes AM là qui traversent les continents. Et c'est quelque chose qui nous a vraiment fasciné avec Sophie, c'est-à-dire la capacité d'écouter une émission coréenne au fin fond de l'Oregon ou de capter quelques ondes venant de l'autre bout du monde. Il y a quelque chose d'un peu mystérieux. On se demande par quel biais, même si on étudie la physique et la technique des ondes radio, on trouve toujours ça étrange de pouvoir se connecter à autant de monde en étant aussi isolé. Et voilà, ça témoigne de cette passion-là, en tout cas pour le mystère des ondes, pour tout ce que ça raconte sur les esprits, les fantômes qui traversent les espaces, et puis tous ces liens-là à l'imaginaire, quoi. Donc, je sais pas ce que ce personnage apporte en plus, mais c'est vrai que d'imaginer un type qui, comme un espèce de chaman, un chaman des ondes, continue de communiquer avec des êtres à l'autre bout de la planète, ça nous faisait un peu triper quand on a lancé cette histoire.
Et alors, toi, en tant que créateur de ce spectacle-là, tu plonges le spectateur vraiment aussi en immersion sonore avec un dispositif un peu particulier. Le spectateur assiste donc au spectacle, mais avec des casques HF. Pourquoi est-ce que tu as choisi ce dispositif-là, cette approche-là?
Eh bien, c'était pour que le son soit vraiment le premier moyen d'accès à la fiction. C'est-à-dire, effectivement, on est vraiment sur une fiction radiophonique qui se donne à voir et par des personnages qui sont présents physiquement au plateau et par le dessin qui est une partie rajoutée qui est un petit peu qui suit la fiction sans jamais l'illustrer vraiment mais qui est toujours en parallèle avec la fiction qui est déployée. Mais je voulais surtout que le son, l'ambiance sonore, cet aspect un peu vraiment ultra immersif propre à l'intimité d'une écoute radiophonique soit le premier médium d'accès. Donc c'est vrai que la question s'est vraiment pas du tout posée de passer autrement que par ce biais-là. On aurait pu faire autrement, après plusieurs personnes nous l'ont dit, mais c'est aussi un rapport à l'intime que j'aime bien développer. Moi j'avais monté un projet par exemple en mode drive-in, où on passait par les ondes déjà par les ondes FM et qui diffusait via les autoradios. Et ça crée un rapport vraiment singulier avec le spectateur qui est en connexion directe avec un univers dans son intimité. Alors, soit dans la voiture, mais là, en l'occurrence, il est à la fois ensemble avec plein d'autres spectateurs dans une grande salle ou une moyenne salle. Et puis, à côté de ça, il est quand même dans un rapport très intime à l'histoire, comme on vient vraiment lui parler au creux de l'oreille. Donc, c'était vraiment un souhait de départ d'être sur ce terrain-là et pas d'ultra théâtraliser une proposition qui était à la base radiophonique. C'est plutôt l'intérêt de comment déployer une fiction radio sur scène sans en dénaturer toute la substance, quoi.
Et en même temps, tu as parlé de drive-in, et là je trouve ça intéressant parce que je voulais te demander quelles étaient peut-être tes inspirations au niveau littéraire ou même cinématographique, puisque finalement quand on se plonge dans la fiction même originale radiophonique, on est dans une atmosphère de cinéma. En même temps, on n'a pas l'image, mais en fait tout le son nous crée ces images dans la tête.
Bah là, clairement, c'est vrai qu'il y a plusieurs types de fiction radiophonique et qu'il y a des fictions très épurées, très minimalistes et très théâtrales. Là, en l'occurrence, Airstream, à la base, il y avait cette volonté de coller au plus près un univers cinématographique, c'est-à-dire avec une texture de son qui soit très dense, très remplie. Il n'y a pas beaucoup d'espace dans la fiction. Et en même temps, avec des temporalités assez lentes. Moi, c'est vrai que j'ai presque plus de références dans le milieu cinéma ou de la bande dessinée que du côté du théâtre. Ce qui peut paraître étonnant quand on vient une compagnie qui est dans la case théâtre, mais c'est pour dire que c'est vraiment des sources d'influence fortes. Et là, on a essayé de coller au plus près d'un principe de réalité, quand bien même la fiction est complètement présente, puisqu'il n'y a que des situations impossibles, mais par contre l'univers et l'environnement sonore, il est ultra cinématographique. On a essayé de garder vraiment, de placer l'auditeur au centre de cette caravane, à côté de Saul, et de lui faire vivre et l'ambiance et l'atmosphère qui règne à l'intérieur de cette caravane. Mais c'est vrai que nous, quand je parle de drive-in, c'est vrai que c'est une influence. Moi, j'ai un petit tropisme américain, sans trop savoir pourquoi, enfin si ce n'est toute la culture pop qui vient de là-bas et dont je suis abreuvé depuis que je suis enfant. Et puis, beaucoup de cinéastes que j'adore et qui parlent de ça, et un côté littérature américaine qui est vraiment mon penchant premier, la littérature des grands espaces, et tout ça, c'est vraiment des choses qui me parlent. Donc c'est... Il y a vraiment un lien avec le côté réalisation ciné dans le cadre de cette fiction-là et de son déploiement sur scène.
Justement, si on revient maintenant un peu plus sur scène, sur ce qui va se jouer devant le spectateur qui viendra vous voir, il ne faut pas oublier quand même de mentionner que tu ne seras pas seul sur scène. Tu seras notamment accompagné de Benjamin Bachelier, qui en fait ajoute une dimension graphique à cette narration.
Ouais, tout à fait. Benjamin Bachelier, qui est dessinateur de bande dessinée, illustrateur aussi, qui fait beaucoup d'éditions en bande dessinée. Et puis qui a la particularité de beaucoup aimer le dessin live. Ça a aussi un peu nourri cette collaboration, qu'on va d'ailleurs continuer sur une prochaine pièce tous les deux. Et c'est vrai que lui, il vient... en plus, on s'est vraiment compris tout de suite, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucune volonté d'illustrer, de donner à voir ce qui était raconté en direct, mais plutôt de trouver juste les petits à côté, les petites histoires dans l'histoire qui viennent se greffer autour et qui sont présentées. Donc c'est un décor pour décrire aux gens ce qu'ils vont voir. Ils se retrouvent dans une espèce de comme un simili trailer park avec deux bouts de caravane qui traînent dans un décor un peu proche de la bande dessinée. Et à côté de la narration qui est réalisée par moi en tant que Saul, et puis Sophie qui joue le personnage de Lucie, et la musique de Vincent Dupac est aussi en direct, on a des parties de la caravane qui s'animent de dessins tout au long de la pièce et qui viennent, je dirais, prolonger l'imaginaire de la pièce. C'est pas vraiment illustratif, mais ça dévie, ça tourne autour, et puis ça donne une autre dimension, beaucoup plus, pour le coup, graphique, et puis qui donne un autre terrain d'évasion pour le spectateur, auditeur qui est présent dans la salle.
Ces formes hybrides, comme ce que tu proposes, est-ce que c'est encore aujourd'hui facile à défendre, même en termes de budget de création? On voit que maintenant, il faut que la culture soit rentable. Qu'est-ce que tu penses de l'avenir de ce type de projet, toi?
Je crois que... Je dirais que maintenant, c'est le présent et le futur. C'est-à-dire que de plus en plus de créateurs sont sur des propositions hybrides. Les cases qui avaient été développées pour le spectacle vivant, avec d'un côté la danse, de l'autre le théâtre, de l'autre la musique, ça fait un moment qu'elles sont bousculées, malmenées. ça reste des cases et des étiquettes qui sont souvent liées à, justement à des dispositifs de subvention qui fait qu'on rentre dans telle ou telle case. Après, de fait, des créations transdisciplinaires ou hybrides, elles sont vraiment maintenant, c'est, je dirais, monnaie courante. Enfin, c'est quasiment une majorité des productions. Après, c'est vraiment comment on envisage ça. C'est-à-dire, je pense qu'il y a des gens de théâtre qui rajoutent de la vidéo comme un élément scénographique ou de décor. Et puis après, on peut aussi concevoir un spectacle comme un où les modalités d'écriture sont diverses et que ça passe parfois par le son, parfois par la prise de parole et le texte, et puis parfois par l'image. Donc c'est des conceptions un petit peu différentes. Alors après, la question de la survie dans notre secteur actuel, c'est une vaste question qui est particulièrement complexe en ce moment. Enfin, t'es pas sans savoir les contraintes et les attaques sur le monde de la culture et les services publics en général, mais de la culture en particulier de ces derniers temps. Je ne sais pas si ça sera un avantage ou un inconvénient d'être sur ce registre-là. Là, j'avoue que je ne sais pas trop. Mais je ne pense pas que ce soit un frein, puisque j'ai l'impression que tous les esprits sont ouverts maintenant sur ces compositions multiples avec différentes façons d'aborder le travail de plateau. Il y a beaucoup moins de gens qui se posent la question de est-ce que c'est du théâtre ou pas du théâtre, finalement. Mais bon, après, c'est vrai que c'est pas forcément les pièces les plus faciles à défendre, et pourtant on joue avec des codes qui permettent à des gens qui sont pas familiarisés forcément avec le théâtre de s'intégrer dedans, notamment le cinéma. Moi qui travaille beaucoup sur des univers et des images cinématographiques, avec un gros travail sur le son, je sais que ça a séduit aussi des jeunes ou des gens qui avaient une conception du théâtre un peu éculée, qui disaient bon, bah voilà, en fait, il y a plus de choses que ce qu'on pensait qui existent sur les scènes, quoi. Mais après, la survie, ça, c'est une autre question, parce qu'elle est très délicate en ce moment, et ça, j'ai pas la réponse.
Bon, en tout cas, tant que ce type de proposition existe, il faut aller justement les voir. Et donc, pour découvrir ton spectacle Airstream, bah, ce sera le 6 et le 7 février à l'Espace Clair de Lune.
Pour ceux qui sont pas là sur la semaine, qui, le week-end, il y a aussi un concert de Vincent Dupas, qui est organisé à la Fonderie le samedi. Et puis le dimanche, on fait une version immersive 7.1. Alors là, pour le coup, c'était une création qui, à la base, était faite encore une fois à partir d'Airstream, mais dans un cadre vraiment fiction, diffusée en modalité cinéma, c'est-à-dire en ciné sonore, avec des enceintes tout autour qui permettent de spatialiser le son. Et avec Benjamin qui, là, se rajoute sur cette date-là, le dimanche au Cinéma Majestique, pour faire une proposition dessinée qui sera vraiment différente de celle du spectacle. Mais du coup, ce sera les gens dans le noir, juste avec l'univers visuel et le son. Avant de se quitter, remercier Isabelle Yamba et puis l'équipe dernier d'avoir organisé tout ça, parce que c'est vrai que nous, c'était un peu notre souhait de pouvoir présenter dans des lieux plusieurs formes liées à un même univers. Vraiment, quand on parle de transmédia, on parle d'histoire au pluriel en forme de monde, et là c'est vraiment le cas. Et je tiens à signaler que c'est vraiment super d'avoir fait cette proposition sur une semaine. Nous, on avait déjà fait les différentes étapes dans une même salle, mais sur plusieurs saisons, et là de le faire comme ça dans une semaine complète, bah, c'est vraiment un plaisir pour nous. On espère qu'il y aura un plaisir de reconnaissance pour les spectateurs. Donc je tiens quand même à remercier l'équipe dernier pour cette invitation.
Et donc je le rappelle, donc ça commence le mercredi 5 février, ça se termine le dimanche 9 février. De toute façon, l'ensemble de la programmation est disponible sur le site de la communauté de communes de Lernay. Merci beaucoup Guillaume d'avoir été avec nous.
Merci bien.
Et alors dans cette émission, on a plutôt l'habitude de faire des pauses en musique, mais aujourd'hui, je vous propose de se plonger dans l'univers d'Airstream avec un extrait de la fiction radiophonique de Guillaume Barriou.
Airstream. Join the Airstream family. But do it now, for life is a one-time thing. Une fiction radiophonique proposée par Bicheprod. For building dreams is our business. Épisode 1, sol. Ça marche pas, ce truc. Plus rien qui marche dans cette foutue caravane. Nebraska, ferme-la, tu veux ? Je sais que t'as les crocs, mon vieux. Moi aussi, figure-toi. Je fais ce que je peux. Fichu taudis, je vais y foutre le feu, moi, cette tôle pourrie. Un grand feu de joie, avec de belles flammes qui monteront jusqu'au ciel et iront rôtir le cul des anges. Qu'est-ce que t'en dis, mon vieux ? Un brasier, qui se verrait jusque dans l'Oregon, ça aurait de la gueule, non ?
Cet homme, c'est Saul. Il vit ici, dans ce désert du bout du monde, depuis un an déjà, avec un iguane nommé Nebraska.
Ok, ça fonctionne. Il semblerait qu'on va pouvoir dîner chaud, mon pote. Ce soir, c'est cornet de bif. Ça t'ira, princesse ? Depuis quand t'as pas bougé ton gros derrière pour chasser un truc, toi ? Tu dois être le seul iguane à bouffer plus de boîtes de conserve que de luzerne. Un lézard de compétition, ça.
Quand je n'ai plus été là, Saul a fui le monde des hommes. Il est venu se réfugier ici, au milieu des canyons. La solitude à perte de vue, les coyotes, des serpents jaunes, quelques veuves noires. Et le chagrin qui s'endort, doucement.
C'est le plus bel endroit de la Terre, ici. Tu crois pas, Neb ? Pas un autre endroit comme celui-ci, où la mémoire peut se replier sur elle-même, comme un lys des sables.
Saul a passé un pacte avec le réel. Il s'est inventé une normalité, en quelque sorte. Un quotidien qui le garde encore du côté des humains. Il se lève avec le soleil, chaque matin, sauf le samedi. Va chasser, un peu, pour nourrir Nebraska surtout. Coupe du bois, un peu. Parle avec les animaux sauvages qui lui rendent visite, un peu. Se saoule pour dormir, de plus en plus. Et surtout, écoute la radio, le bruit du monde. Et puis, toujours à la même heure, en soirée, il passe sur les ondes courtes. C'est là qu'il les entend. Parfois, ces voix, comme des fantômes, des âmes errantes qui errent dans les ondes, des voix de son passé, des voix aimées, qui se refusent à passer tout à fait du côté des défunts.
C'est l'heure, mon dragon.
L'agité du local sur l'autre radio. Nous sommes mercredi et le mercredi dans l'agité, c'est la petite annonce au bout du fil.
Allô, Jean-Pierre ? C'est Jean-Pierre ? Allô ? Mais qu'est-ce que c'est que ce Beans ?
Excuse-moi.
Ça te dérangerait pas de sortir pour aller téléphoner ?
Dis donc, oh !
Allô ? C'est Guy ? Bah.
Alors pour la petite annonce aujourd'hui, au bout du fil, nous sommes avec Pascal Bisson, animateur, coordinateur et directeur ASLH du CLEP, donc le Centre Social Associatif de Laval. Bonjour Pascal.
Bonjour.
Alors il s'agit de projets radio que vous organisez avec notre animateur d'atelier Pierre-François. Alors dites-nous en plus.
C'est cela. Alors plus globalement, au club, on organise un accueil de loisirs régulièrement sur toutes les petites vacances et les vacances d'été, où les enfants peuvent s'inscrire la journée ou en après-midi sur des stages thématiques, donc sur les deux semaines de vacances. Donc on a des activités un petit peu sur tout, des activités de sport, de scientifiques et techniques. Et dans ce cadre-là, et dans le cadre du Festival Monde dans le bus, eh bien, on invite des jeunes de 11 à 14 ans à participer à un stage sur toutes les après-midi de la semaine du 17 au 21 février pour une initiation à la radio, donc sur nos ateliers, 8 impasse de Chiffaulière, c'est en centre-ville de Laval.
Alors comment est-ce qu'on fait pour retrouver l'ensemble de la programmation et pour s'inscrire ?
Alors, c'est très simple. En fait, il suffit d'aller sur notre site internet www.cleb-laval.fr. Donc, vous y retrouverez la plaquette programme de toutes les vacances destinées aux familles et aux enfants de 6 à 14 ans. Et puis, les fiches d'inscription. On peut également téléphoner au 02 43 56 41 31 pour avoir tous les renseignements. Et au sein de ce centre social, on propose également, évidemment, plein d'animations gratuites en direction des familles, des papas, des mamans sur des 0 6 ans. Et on a un très gros programme, notamment la deuxième semaine, dans le cadre du festival Monde dans le bus, avec lequel on a un partenariat.
Et donc là, on parle spécifiquement de la programmation des vacances scolaires, mais en fait, tout au long de l'année, hein, on retrouve énormément de propositions.
Complètement. On a des ateliers, notamment pendant les vacances, liés aux familles, où on va passer d'ateliers peinture en ateliers jeux tout azimut, puisqu'on gère une ludothèque avec plus de 2000 jeux, où on peut venir librement et gratuitement toute la semaine, pendant les vacances, mais hors vacances également. Donc l'équipe d'animation de la ludothèque peut vous accueillir vraiment très très facilement, et on peut jouer, on peut faire des sorties familiales. On aura notamment une sortie à la patinoire jeudi prochain, et puis on fera une sortie en bowling aussi la semaine d'après, donc aussi bien avec l'accueil de loisirs qu'avec les familles qui souhaiteraient s'inscrire sur ce centre social avec plein d'activités, et vous retrouverez ça sur notre plaquette programme.
Merci beaucoup Pascal. Est-ce qu'il y a une date limite pour s'inscrire pour toutes les propositions des vacances scolaires qui arrivent là?
Alors l'idéal, c'est de pouvoir s'inscrire avant vendredi prochain, parce qu'il est évident qu'il faut qu'ensuite on puisse embaucher une équipe d'animateurs, donc des lycéens, des étudiants. Mais voilà, on prend aussi des inscriptions de dernière minute, donc on est assez souple là-dessus par rapport aux inscriptions. Donc ne pas hésiter à passer un petit coup de fil et puis à demander si les groupes sont complets. Et pour l'instant, on a vraiment de la place un petit peu partout.
Eh bien, en tout cas, merci beaucoup, Pascal, de nous avoir partagé cette petite annonce, ces informations. Merci beaucoup.
Merci à notre radio.
Après avoir découvert l'histoire et les valeurs de la brasserie de l'Arborescence, puis exploré son univers et son lieu de production, il est temps de s'intéresser au cœur du métier de brasseur, la fabrication. Derrière chaque bière, il y a un processus précis, des gestes techniques, des choix qui influencent les saveurs et la texture. Comment transforme-t-on des ingrédients simples en une bière artisanale unique ? Pour ce dernier épisode, on plonge dans les coulisses du brassage, là où tout se joue. Brasser une bière, c'est tout un équilibre. Tout commence avec quelques ingrédients essentiels, de l'eau, du malt, du houblon et des levures. Mais leur transformation en une boisson riche en saveurs demande un savoir-faire précis. À la brasserie de l'Arborescence, chaque étape compte. Chaque choix influence le résultat final, la personnalité même de la bière. Aujourd'hui, on vous emmène dans cet univers de passion et de technique au plus près des secrets de fabrication pour ce dernier épisode au cœur de la brasserie l'Arborescence à Saint-Georges-Butavant.
Pour fabriquer une bière, il y a trois grandes étapes. Après le maltage, bien sûr, l'orge doit être maltée. Donc pour la recette, je détermine une quantité de malt d'orge qui est broyée. Pas en farine, hein, en grains concassés, mais voilà, il faut que les grains soient cassés. La première étape, c'est l'étape où on va extraire les amidons des grains. Et c'est donc l'étape qu'on appelle l'empâtage. Là, on mélange le malt d'orge broyé avec de l'eau à une certaine température. Et ainsi, on va permettre aux enzymes naturellement présentes dans l'orge de se libérer et de venir transformer les amidons. Les amidons, eux aussi, vont se libérer, vont aller dans l'eau. Et les enzymes vont ainsi couper les amidons et les transformer en sucre qui pourront se transformer par les levures. Parce que donc, les levures n'arrivent pas à transformer les amidons en alcool. Ils font pour ça transformer les amidons. Et c'est vraiment la première étape, qui est l'étape de saccharification. Donc les amidons sont transformés en sucres qui vont être transformés en alcool et d'autres sucres qui vont, eux, vont rester après fermentation. Si on n'a que des sucres qui sont transformés en alcool, on a une bière avec de l'eau et de l'alcool qui n'a aucun goût. Si on a trop de sucres complexes, on a une bière avec très peu d'alcool et une bière très lourde, très sucrée, et donc un peu indigeste. Donc il faut trouver l'équilibre en fonction aussi des degrés. Une bière forte, ça va demander quand même du sucre. Une bière légère, voilà, on veut quand même quelque chose de, qui étanche la soif, quelque chose de désaltérant, donc on ne veut pas trop de sucre. Donc cette première étape dure 1 heure et demie. Après, on a l'étape qui est à la filtration. Il faut séparer les matières solides des matières liquides. Donc, on va récolter ce qu'on appelle un moût d'orge. Donc, c'est un moût sucré. Et ce moût, on va après donc, le faire bouillir. Donc, c'est la période, c'est l'étape d'ébullition. Là, on fait donc bouillir le moût pendant 1 heure à 1 heure et demie. Et là, il se passe, voilà, il y a des processus biochimiques qui s'établissent. On a une transformation des protéines, on a l'aseptisation du milieu. Toutes les bactéries sont détruites. C'est le moment où on ajoute les houblons à chaud. Il faut après refroidir le moût. C'est l'autre étape. Donc passer de 100 degrés à 20 degrés. Donc il faut que ça se fasse le plus vite possible. Imaginez, il y a 1000 litres qui bout pendant 1 heure et demie. Après, il faut la descendre à 20 degrés. Donc ça prend à peu près une demi-heure. Une fois la bière refroidie, elle est mise dans un fermenteur. Et on va donc ensemencer le milieu avec des levures sèches. En fonction de la recette, ça va être soit une levure haute température ou une levure adaptée aux basses températures. Et la fermentation va se lancer au bout de 12 heures. La fermentation va durer entre 7 et 15 jours. Enfin, je dirais plutôt 7 et 10 jours, ça dépend, mais souvent c'est autour de 10 jours. Et donc au bout de cette fermentation, ce qu'on appelle la fermentation primaire, on va réaliser ce qu'on appelle la garde. Donc on va descendre la température de la bière progressivement vers 0 degré. Donc elle fermente soit à 12 ou 13 degrés, soit à 20 degrés. Mais on la descend voilà, progressivement vers 0 et on va comme ça clarifier la bière. Pour clarifier, on évacue les matières solides, donc tout ce qui est levure, tous les jours, pendant à peu près 15 jours à 3 semaines. Jusqu'au moment donné où vraiment la bière va être bien limpide et prête à être embouteillée. Après, il y a l'embouteillage. Ici, il se fait par une embouteilleuse à gravité. Elle est embouteillée sans bulles. Mais la fermentation est relancée en bouteille avec un léger sirop. Ça redonne en fait à manger aux levures. Et en bouteille, les levures vont redémarrer et vont mettre la bouteille sous pression, vont reproduire du CO2. Parce que du coup, j'ai pas d'embouteilleuse, ce qu'on appelle isobarométrique, qui permet d'embouteiller la bière sous pression. Parce que la bière, tout le monde le sait, ça mousse. Donc du coup, voilà, la bière est embouteillée plate et refermentée en bouteille durant 15 jours. Après, au bout de 15 jours, donc c'est vraiment le minimum, l'idéal c'est 3 semaines, mais au bout de 15 jours, on peut étiqueter et après expédier les bières. Voilà, donc il faut à peu près 6 semaines pour produire une bière, c'est assez rapide, mais il faut anticiper, c'est un métier aussi d'anticipation, il ne faut pas attendre de ne plus avoir de bière pour commencer à brasser, quoi.
En fait, ta production, tu l'adaptes par rapport à tes ventes, tes commandes, c'est comme ça que tu fonctionnes?
Ouais, c'est ça. Donc là, on commence déjà à penser à l'été, donc je commence à faire des stocks. Là, les bières d'hiver, on arrête, quoi, en fait. Donc il y a toujours un peu une saison d'écart. Et puis avec le temps, on sait voilà, les bières qui partent le plus. Les bières fortes, par exemple, on sait qu'elles partent davantage l'hiver, mais l'été, on n'en vend pas beaucoup, quoi.
Et alors, par exemple, sur l'année 2024, combien de quantités de bières est-ce que tu as produit?
Je suis autour de 20 000 litres de bière, quand même. 20 000 litres par an. Et ça fait qu'il y a des fûts, mais je suis autour de 60 000 bouteilles, quand même.
Et donc, ta bière, tu la vends principalement sur le département de la Mayenne ou est-ce qu'elle s'exporte encore plus loin?
La bière artisanale, c'est très, très départemental. Les gens sont très, très chauvins. Les bières locales, c'est les bières mayonnaises. Et c'est pareil en Sarthe, c'est pareil en Ille-et-Vilaine, quoi. Donc, tout est vendu quasiment à 98% en Mayenne. J'en vends un tout petit peu au Biocoop au Mans. C'est le seul endroit où je vends à l'extérieur.
Quand tu regardes en arrière, quand tu fais le point sur ton parcours, est-ce que tu penses que tu te serais lancé de la même manière si tu avais su les étapes par lesquelles tu allais passer, les difficultés que tu allais rencontrer? Ou alors est-ce que finalement, c'est pas plus mal de pas trop savoir tout ça au démarrage?
Oui, la réponse est dans la dernière, Dernière phrase, comme tout projet d'entreprise, faut des fois pas trop savoir ce qui nous attend, sinon on serait un peu effrayé à l'avance. Mais je savais que ça allait pas être simple. Après, comme je disais, j'ai été bien entouré au démarrage. J'ai pris le temps aussi de créer les recettes. J'ai été bien accompagné par un ami sur aussi les visuels et la communication. Donc aujourd'hui, je suis super content de savoir que voilà, ça fonctionne. Je suis aussi ravi de savoir que ça plaît. Après, voilà, faut maintenir. Et c'est ça qui n'est pas évident. Une fois que c'est accompli, il faut maintenir. Il faut finir de rembourser. Donc, il me reste encore plusieurs années à tenir bon. Mais c'est bien parti. Au bout de 5 ans, ouais, je suis très content.
Derrière chaque bouteille de la brasserie de l'Arborescence, il y a un engagement. Celui de proposer des bières artisanales de qualité en respectant des valeurs éthiques et environnementales. Installée à Saint-Georges-Butavant, la brasserie privilégie des ingrédients soigneusement sélectionnés, des procédés respectueux et une production à taille humaine. Ces bières, aux saveurs uniques et travaillées, sont disponibles en circuit court, dans des caves, des bières et directement à la brasserie. Pour les curieux et les amateurs, il est même possible de venir découvrir les lieux et échanger avec Jean-François Guillory, le brasseur passionné qui donne vie à cet univers. 3 épisodes pour vous plonger dans cette aventure artisanale, mais rien ne vaut le goût de la découverte. Alors si vous avez l'occasion, laissez-vous tenter par une gorgée d'Arborescence, une bière qui a du sens et surtout une belle histoire derrière elle. Vous écoutez l'Agité du local sur l'autre radio et Soizic nous a rejoint en studio aujourd'hui. Bonjour Soizic.
Bonjour tout le monde.
Alors aujourd'hui, vous nous parlez du point commun entre la Chine, l'Australie et la Floride.
Oui, tout à fait. Alors certes, ces trois pays ont un « i » dans leur nom, mais ce n'est pas du tout de ça dont je vais vous parler, mais de bien autre chose. Ils ont en effet en commun d'avoir légiféré sur l'utilisation des réseaux sociaux par les jeunes. Alors c'est ainsi qu'en 2021, pour la Chine en tout cas, en novembre dernier pour l'Australie, et puis ce mois-ci pour la Floride, eh bien ces trois pays ont adopté une loi interdisant l'accès aux réseaux sociaux pour les moins de 16 ans ou 14 ans pour la Floride. Alors qu'en est-il en France? Eh bien il y a une loi, votée en juin 2023, alors elle qui a instauré une majorité numérique à 15 ans. Le texte n'interdit pas l'accès des plus jeunes aux réseaux sociaux, mais il impose l'obligation pour les plateformes de vérifier l'âge de leurs utilisateurs, on ne sait pas trop comment elles font, et elles obligent également le consentement des parents pour les mineurs de moins de 15 ans. Quant à l'Espagne, elle est en train d'étudier également une restriction du même genre.
Alors pourquoi ces lois?
Alors tout d'abord, on va se poser la question de à quoi sert la loi. Et bien, pour faire bref, on peut dire qu'une loi est une bonne loi quand elle protège ou qu'elle émancipe. Clairement, ici, la loi cherche à protéger nos jeunes des contenus toxiques des réseaux sociaux. Alors quels sont ces contenus toxiques? Et bien, évidemment, les plus connus restent malheureusement le harcèlement et la prédation sexuelle, mais cela va bien au-delà. Aujourd'hui, toutes les études prouvent que les dégâts des stimuli des réseaux sociaux sur le cerveau des enfants et des adolescents sont incommensurables, parce qu'ils sont en effet devenus incapables de se concentrer. Et puis on a aussi la dépression chez les ados qui a bondi, notamment chez les filles, qui se mettent à détester leur corps qu'elles jugent trop normal, voire trop moche, quand elles se comparent aux influenceuses dont elles se gargarisent en général sur, je ne vous dirai pas le nom du réseau social, mais vous me suivez. Alors certes, les réseaux sociaux permettent des échanges, des rencontres, sont une agora ouverte à tous, d'ailleurs ce qui est parfois problématique. Les réseaux sociaux ont donc de bons côtés à n'en pas douter. Mais ce qu'il faut faire, Margot, c'est mettre finalement tout cela dans une balance. De quel côté penche le plateau quand on y met? D'un côté, ces fameuses rencontres possibles et cette liberté d'expression débridée. Et de l'autre côté, la diminution de la capacité de nos jeunes, mais pas que d'ailleurs, à maintenir leur attention, je l'ai dit, leur addiction aux écrans, leur phobie face à un instant sans rien, leur isolement social réel, parce que physique, on communique virtuellement, leur manque de sommeil lié au syndrome FOMO, vous connaissez le syndrome FOMO? C'est cette peur de rater quelque chose et qui pousse de nombreuses personnes à rester connectées en permanence. Également la diminution drastique du temps passé à faire ses devoirs, pour les plus jeunes bien sûr, l'adhésion ou la croyance à des rumeurs plus folles les unes que les autres, ou à des communautés totalement cheloues, anorexie, djihadistes, brouteurs, etc. Et je ne parle pas évidemment de la lecture qui est devenue sot XXe siècle en dehors de quelques new romances dont on pourrait discuter de la qualité littéraire. Et à ce triste tableau, on pourrait désormais rajouter les lignes éditoriales plus que contestables de X et de Meta depuis que leur patron ont viré trumpiste, masculiniste, bref, totalement toxique.
Mais vous ne pensez pas que sans réseau, on se coupe de la marge du monde ?
Alors Margot, je vais vous poser une question à laquelle vous allez me répondre très franchement. Me trouvez-vous complètement en dehors de la marge du monde ?
Non.
Eh bien pourtant, je ne suis sur aucun réseau social. Et jusqu'à ce jour, je n'ai jamais rencontré une seule discussion, je dis bien une seule, dans laquelle je me sentais étrangère, parce qu'absente des réseaux sociaux. En revanche, je gagne un temps précieux à ne pas scroller mes 120 mètres par jour, c'est en moyenne en France. Hein. Je reste à l'abri de ce que l'humanité a de plus moche dans sa virulence et son agressivité. Et je ne suis pas bombardé par des placements de produits dont je n'ai que faire et qui enrichissent des influenceurs rousseuses bien installées à Dubaï, qui ne payent pas d'impôts et ne contribuent en rien au bien commun. Donc, Marco, eh bien, je suis au regret de rejeter votre argument. Et le plus triste, c'est que l'utilisation ou non des réseaux sociaux rajoute une couche d'inégalité sociale. Les CSP+ commencent en effet à saisir les dangers des écrans. Et les ados sans smartphone se rencontrent aujourd'hui dans les classes aisées, comme dans le temps, les familles sans télévision. Alors, si on ne fait rien, les gamins déjà désavantagés socialement le seront encore plus. Et les inégalités éducatives vont encore se creuser. On est donc là sur une question de justice sociale. Après tout, on interdit bien la vente d'alcool aux mineurs, on peut très bien interdire l'accès des réseaux sociaux aux moins de 16 ans. Finalement, il n'y a rien de choquant. Ces lois sont donc des lois qui libèrent, Margot, contre une fausse liberté offerte qui asservit l'esprit des plus jeunes. Et d'ailleurs, je l'ai déjà dit, pas forcément que des plus jeunes. Alors évidemment, vous allez m'opposer le problème technique. Comment concrètement interdire l'accès aux réseaux sociaux ? Eh bien, moi je vous propose de demander à des programmeurs ou à des régulateurs chinois, ils seront ravis de nous aider.
Merci beaucoup, Soizic, merci beaucoup. L'agité du local, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Guillaume Barriou d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à Soizic et merci à toi, Maxime. Alors ça continue sur l'autre radio.
Et oui, la soirée commence à 19h avec Novorama. Comme toutes les semaines, nous découvrons de nouveaux albums indie rock et pop électro. Dans ce programme s'ajoutent des chroniques et une interview d'un artiste ou d'un groupe émergent.
Et puis ça continue.
Ensuite, nous retrouvons à 21h Chaosphère, l'émission métal qui nous emmène dans un voyage liturgique.
Merci Maxime. Moi je vous dis à demain pour une nouvelle émission de l'Agité du local. Nous serons avec le Borderline Comedy Club, Priscilla et Valentin, qui nous parleront de la toute prochaine date de stand-up qui aura lieu à l'Inclusive Beauty Bar à Laval ce vendredi 7. D'ici là, offrez-vous ce que j'appelle un petit luxe du quotidien, une chanson en boucle, un café trop long. Terminez la journée plus tôt si vous le pouvez, vous le méritez, parce que pour soi-même, c'est aussi important de faire le bien.
Oh, c'est déjà la fin, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ?
Mimi, il y a d'autres émissions qui sont bien aussi sur l'autre radio.